Mode d'emploi.
Oui, bonsoir. Donc, nouvelle émission de Secret de Fabrication. Aux manettes, Bub qui va arriver et Boxar inside et Phil à la technique. Donc, on revient sur la question ce soir du harcèlement sexuel et de l'égalité professionnelle dans la mesure où l'actualité... surtout l'an dernier, donc a fait état d'un mouvement social d'importance, autant aux États-Unis avec le mouvement MeToo qu'en France avec le mouvement Balance ton porc, donc suite aux agissements de Weinstein. Et donc nous revenons ce soir sur le décalage de la législation entre sur le harcèlement sexuel et les discriminations au travail aux États-Unis et en France, donc depuis le mouvement MeToo et Balance ton porc. On abordera un second axe qui revient sur les dispositions relatives récentes renforçant la lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes et à mettre en œuvre un ensemble de mesures donc visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, avec deux lois qui ont été votées en automne 2018, la loi Avenir professionnel et celle de 3 août 2018 contre les violences sexuelles et sexistes. Cet axe interroge également la loi, car une fois adoptée, la loi ne se suffit pas à elle-même pour être effective. Une loi ne signifie rien par elle-même. Elle doit être mobilisée, mise en œuvre pour construire son sens. Et c'est le rôle de l'interprétation faite par un tiers, à savoir le juge, qui doit être interrogé, mais aussi celui des acteurs sociaux. Nous pensons aux représentants des salariés, mais aussi... aux mouvements sociaux, qui la font évoluer au travers de la négociation collective et du dialogue social. Ce qui nous amène au troisième axe qui structure cette émission et qui pose la question des moyens mobilisés par l'administration en vue d'accompagner les entreprises dans la mise en œuvre de ces nouvelles obligations. Moyens entreaperçus au travers de l'instruction du 25 janvier 2019 adressée par la Directe Grand Est aux autres directes, qui sont donc des instances régionales qui organisent le travail, notamment des agents de contrôle de l'inspection du travail, et donc visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes issus donc de la loi Avenir professionnel et du décret du 8 janvier dernier. Nous répondrons donc par l'intervention de représentantes de l'inspection du travail qui nous apporteront leur lumière sur la façon dont est menée donc la lutte sur le harcèlement sexuel et la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Alors, pour en venir donc au décalage entre la législation américaine et française sur la question du harcèlement sexuel et des discriminations, je m'appuie sur les travaux de Abigail Sagi, professeure de sociologie et d'études de genre à l'UCLA en Californie. Qui met surtout l'accent sur les faiblesses et les forces de la législation américaine sur harcèlement sexuel et discrimination par rapport à la France, même si, loin s'en faut, la législation américaine est loin d'être parfaite. Maintenant, ça fera pas l'objet d'une émission ce soir. Il faut bien comprendre, donc, avant d'aller plus loin, les approches américaines et françaises qui se distinguent sur ces deux thèmes. Aux États-Unis, le harcèlement sexuel bénéficie d'une protection spéciale en tant que discrimination fondée sur le sexe, dans le cadre du travail seulement. Les tribunaux eux-mêmes considèrent que les entreprises de plus de 15 salariés qui échouent à protéger ces dernières contre le harcèlement sexuel sur leur lieu de travail tombe sous le coup de ce qu'on appelle le titre 7 de la loi sur les droits civiques de 1964, qui interdit toute discrimination sur la base de la race, de la couleur, de la religion, de l'origine nationale et du sexe. En vertu donc de ce titre, les victimes de harcèlement sexuel reçoivent simultanément des dommages compensatoires, une somme d'argent destinée à compenser les souffrances éprouvées, et depuis 1991, des dommages et intérêts relevant du champ pénal. Parce que on considère que ces dommages et intérêts sont destinés à punir l'employeur, ils peuvent être fixés à un montant relativement élevé, dans la mesure où seule une somme conséquente peut constituer une peine effective dans une entreprise de la taille d'une multinationale, par exemple. En France, le harcèlement sexuel est sanctionné par le droit pénal, article 222, trait d'union 33 du Code pénal, et par le Code du travail. Et depuis la loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018 et celle contre les violences sexuelles et sexistes d'août 2018, le harcèlement apparaît comme le résultat, et c'est bien la première fois, d'un agissement sexiste, ce qui revient à inscrire dans la loi, enfin, la question des inégalités de sexe au travail. Alors, je ne vais pas détailler donc les apports de ces lois, parce que ça serait assez fastidieux pour notre audience. Mais on pourra peut-être dans la discussion, dans le second temps de l'émission, y revenir. On va plutôt, si vous voulez, insister sur le fait que ces nouvelles dispositions interviennent dans un contexte où jusqu'à maintenant, et contrairement aux États-Unis, la responsabilité de l'employeur dans les affaires de harcèlement sexuel en France était extrêmement limitée. En réalité, les entreprises françaises ont été peu incitées à adopter des mesures préventives contre le harcèlement sexuel, malgré un article du Code du travail qui définit l'obligation générale de prévention de l'employeur des risques professionnels dans l'entreprise, laquelle a été étendue donc par la loi du 6 août 2012 au risque de harcèlement et par un nouvel article du Code du travail, donc issu de la loi du 4 août 2014, sur l'égalité réelle entre les hommes et les femmes. Et enfin, nous avons donc cet article aussi qui impose à l'employeur de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir l'effet de harcèlement sexuel, de lutter contre, mais aussi d'y mettre un terme immédiatement et de les sanctionner. Ainsi, l'obligation de prévention de l'employeur face au fait de harcèlement sexuel reste puissante dans la jurisprudence la Cour de cassation. Comme le fait remarquer l'association de défense des victimes de violences sexuelles au travail. Si l'employeur ne remplit pas ses obligations, il pourra voir sa responsabilité engagée et être condamné à indemniser le ou la salariée victime de harcèlement sexuel, et ce malgré quelques couacs qui sont intervenus en octobre 17. Mais de toute façon, cette obligation de prévention de l'employeur est quand même importante. Cependant, comme le droit du travail français impose aux employeurs de justifier tout licenciement, les employeurs qui sanctionnent leurs salariés accusés de harcèlement sexuel courent le risque d'être poursuivis pour licenciement abusif. De sorte que les employeurs ne sont pas incités à sanctionner leurs salariés incriminés, et quand ils le font, les dommages compensatoires, entre guillemets, tendent à être généralement assez faibles, en particulier dans les affaires de harcèlement sexuel. Alors même que, contrairement aux États-Unis, les dommages punitifs sont, comme je l'ai souligné tout à l'heure, ils peuvent être très importants et être à la mesure, évidemment, de la taille de l'entreprise et de son... Pardon ?
Oui, je voulais juste... Parce que c'est quelque chose que
Je termine.
Oui, vas-y, il y a quelque chose que je voulais dire là-dessus, mais c'est tout à fait...
En France, en droit pénal, les faits de harcèlement sexuel en tant que tel sont punis de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, voire 45 000 euros d'amende en cas de circonstances aggravantes. Ça, c'est depuis août 2018. Les faits de discrimination commis à la suite d'un harcèlement sexuel, par exemple la mutation d'une ou d'une salariée parce qu'il a refusé les avances de son employeur, sont punis par le Code du travail d'un an d'emprisonnement et d'une amende théorique de 3 750 euros. Les peines sont les mêmes en cas de discrimination commise à la suite d'un harcèlement moral. Ces faits de discrimination peuvent concerner à la fois donc les personnes qui ont été elles-mêmes les victimes de harcèlement sexuel, mais aussi celles qui en témoignent et qui n'en sont pas les victimes directes. Le Code du travail permet aussi d'obtenir, donc pour la victime, la nullité du licenciement qui ouvre droit à réintégration ou à indemnisation en cas de rupture du contrat de travail consécutive au harcèlement. Mais quand l'employeur ne procède pas au licenciement du salarié incriminé, ce droit n'est pas reconnu aux victimes de harcèlement sexuel. Et la victime de harcèlement sexuel peut également prendre acte de la rupture de son contrat de travail ou faire une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail devant le Conseil des prud'hommes. Si les faits de harcèlement sont reconnus, le licenciement sera jugé comme nul et les indemnités obtenues ne seront pas soumises au plafond des ordonnances Macron de septembre 2017. Et ce, après une longue bataille de l'association donc contre les victimes contre les violences sexuelles au travail et du syndicat des avocats de France. Et quand cette nullité du licenciement dans les cas de harcèlement sexuel est actée, ce qui est rarement reconnu par le Conseil des prud'hommes, subsistent néanmoins des limites quant au coût des préjudices des victimes. Ainsi, le montant plancher de 12 mois de salaire avancé lors des débats de l'Assemblée nationale en 2016, au préalable au vote de la loi du 6 août 2016, la fameuse loi El Khomri, n'a pas été retenu. Ce qui a été retenu, c'est un plancher de 6 mois de salaire pour un licenciement, dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour les salariés ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans une entreprise de plus de 11 salariés. La sanction n'est donc pas plus lourde pour un employeur qui licencie un salarié pour un motif discriminatoire que pour un employeur qui licencie un salarié sans cause réelle et sérieuse. Ainsi, les entreprises françaises peuvent être condamnées par le tribunal des prud'hommes à rembourser et à dédommager modestement une salariée qui a été licenciée après avoir été harcelée sexuellement, mais elles ne courent pas le risque d'avoir à verser des centaines de milliers d'euros aux victimes, comme ça se fait aux États-Unis. Pourtant, le Conseil des prud'hommes est l'endroit où les victimes de harcèlement sexuel au travail peuvent obtenir justice, avec l'avantage de la procédure d'aménagement spécifique s'agissant de la charge de la preuve, puisqu'il incombe aux salariés, depuis les lois du 27 mai 2008 et 2016, d'exposer des éléments laissant présumer l'existence d'un harcèlement sexuel. C'est désormais, depuis ces lois, que l'employeur doit démontrer que les comportements adoptés étaient justifiés et ne découlaient aucunement d'un harcèlement sexuel. Mais il est fréquent que le Conseil des prud'hommes rejette... Alors, par ailleurs, il est fréquent que le Conseil des prud'hommes rejette l'existence du harcèlement moral ou sexuel au motif que les faits n'ont pas été dénoncés aux médecins du travail, à l'inspection du travail et aux institutions représentatives du personnel présentes au sein de l'entreprise. Or, outre que ces exigences n'ont aucune base légale, il convient de rappeler que près de 30% des victimes de harcèlement n'en parlent à personne. Et moins d'un quart en font part à la direction ou à leur employeur. Alors, je passe les détails sur les autres cas, effectivement, qui font que les femmes, finalement, se mettent à l'écart de toute procédure judiciaire. Mais il faut bien reconnaître que cette faiblesse du droit français a pour conséquence que les entreprises françaises ont été peu incitées jusqu'à maintenant à adopter des mesures préventives, à lutter contre le harcèlement sexuel et à le sanctionner. Par ailleurs, le système judiciaire hexagonal ne permet malheureusement pas de reconnaître ni de réparer les victimes que bien des années après les faits. Ce qui a pour conséquence de dissimuler les femmes de porter plainte. Alors, qu'en est-il maintenant des droits relatifs à l'égalité professionnelle? L'écart de rémunération entre les hommes et les femmes est fulgurant malgré que subsiste une disparité entre les chiffres annoncés par le ministère du Travail et les chiffres annoncés, par exemple, de l'Observatoire des inégalités. Le ministère du Travail avance un différentiel de 9% d'écart de rémunération, alors qu'on en est à 24% du côté de l'Observatoire des inégalités, qui se base sur les données de l'INSEE. Alors, l'égalité professionnelle n'allait pas également de soi en droit français depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et c'est le droit international et surtout la Cour de justice des communautés européennes, ça s'appelait comme ça à l'époque, qui ont fait évoluer le droit national. Le principe d'égalité entre hommes et femmes était construit sur une conception formelle de l'égalité, ce qui va changer avec notamment les conventions 100 sur l'égalité de rémunération et la convention 111 sur l'égalité concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession de l'Organisation internationale du travail et la convention de l'ONU de 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, ainsi que la directive européenne de 1976 qui met l'accent sur la notion d'égalité de traitement avec lesquelles on passe cette fois à l'égalité réelle, c'est-à-dire à une égalité en fait et en droit. Elles inspirent la loi française du 13 juillet 1983 qui prévoit la possibilité pour les employeurs et pour les partenaires sociaux de négocier des plans d'égalité professionnelle au sein des entreprises, incluant des mesures d'action positive et destinées donc à corriger les inégalités qui caractérisent la situation des femmes et introduit l'obligation pour les entreprises de réaliser un rapport de situation comparé sur les conditions générales d'emploi des femmes et des hommes. Donc, loi très importante dans la mesure où elle va inspirer toutes les suivantes, même si, effectivement, on peut se demander donc la raison de leur effectivité. L'égalité entre les femmes et les hommes... L'égalité entre les femmes et les hommes est un droit fondamental dont l'une de ses dimensions s'exprime au travail. Mais si vous voulez, il faut bien comprendre que pendant longtemps, la liberté du chef d'entreprise a primé sur le principe d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Et il faut attendre le renforcement de ce principe dans le droit de l'Union communautaire et l'affirmation, donc au milieu des années 90, par le juge national et donc communautaire, que l'employeur n'est pas le seul juge, mais devant la faiblesse des contentieux initiés pour fait de discrimination au travail, on constate qu'il y a une difficulté d'appréciation de la loi selon la manière dont elle est abordée. Donc avant de passer à l'axe 3, qui va ouvrir la discussion donc avec les intervenants qui vont nous appeler, tu veux ajouter quelque chose ?
Ouais, je disais justement ce que tu disais sur la différence d'efficience entre la méthode américaine et la méthode française, on va dire. Il y a, moi, je vois deux choses qui confirment ce que tu dis. La première, c'est déjà les sommes que les victimes arrivent à obtenir aux États-Unis. Parce qu'il y a une connexion directe entre le droit civil et le droit pénal, en fait. Il y a l'un qui peut découler de l'autre. C'est-à-dire que si la victime, en droit pénal, elle obtient une partie de ses indemnités, elle peut continuer directement dans le droit civil en demandant la réparation intégrale. Et ce système un peu souple, ça permet aux victimes américaines, en fait, d'aller jusqu'au bout de la démarche et de faire payer vraiment à la hauteur de ce qu'elles ont subi. Ce qui n'existe pas en France parce qu'il y a l'articulation est vachement compliquée, en fait, pour faire introduire la victime dans le droit pénal. En fait, en France, on juge sans la victime. C'est grosso modo, c'est une affaire entre le juge et le coupable. Et c'est le juge qui, au nom de la société, fait payer le coupable par de la prison ou par de l'amende. Et ensuite, la victime, si on lui donne l'autorisation, elle a le droit de dire au fait, c'est moi qui l'a tapé. D'accord ? Et là, forcément, la position est très différente, en fait. C'est-à-dire que la victime, elle entre presque par effraction dans le procès.
D'accord. Donc là, en fait, il y a quelque chose du côté spécifique. Du droit français
spécifique.
Qui fait obstacle donc à la reconnaissance de la victime.
Première chose.
D'accord.
Et donc ça, c'est ce que tu as bien justement noté, c'est que ça se passe pas du tout pareil aux États-Unis ou en France sur ce domaine-là. Deuxièmement, il y a effectivement, comme tu dis, il y a une faiblesse grave de la prise en compte de la discrimination, de tous les modèles de discrimination en France. C'était un non-sujet, quoi.
Absolument.
Mais pendant des années et des années. Et le harcèlement, dans la foulée, dans les mêmes caractéristiques. Et comme tu dis, il a fallu que ce soit le droit européen qui tape du poing sur la table plusieurs fois pour dire « vous êtes à la bourre, vous prenez pas en considération ces problèmes-là ».
Et donc, bah, c'est petit bout par 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 petit bout. C'est juste infernal, quoi.
Oui, il faut juste rappeler que la reconnaissance des discriminations, comme je l'ai dit au début, aux États-Unis, elle date de 64.
Bah, donc, oui.
Il y a un décalage temporel énorme, énorme, quoi. Donc, en termes de, effectivement, d'imprégnation, en termes de culture, eh ben, on peine, effectivement, parce que le décalage est tellement important et les obstacles que tu viens de soulever, que moi, par ailleurs, je ne maîtrisais pas, effectivement, doivent expliquer ce retard qui s'ajoute donc à la faiblesse de la culture française sur la question des discriminations. Et en plus de ça,
c'est un chemin de croix, quoi, pour faire reconnaître ce genre de truc, quoi. Et comme tu dis, ça dissuade à mort. C'est-à-dire qu'effectivement, bah, tu as cité les chiffres, hein. Les femmes qui en parlent pas, les femmes qui arrivent pas jusqu'au bout de leur procédure, les femmes qui se donnent même pas la peine de commencer parce qu'elles voient que ça va même pas aboutir, qui sont découragées depuis le début. Effectivement, on a du rattrapage à faire, hein.
Ok. Alors, donc maintenant, ce qui s'agit de voir, c'est donc comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, ce qui nous intéresse, c'est non pas la loi en elle-même, parce que ça n'a aucun sens, mais bien son effectivité, hein, et ce qui nous intéresse, c'est bien évidemment le rapport de force à mobiliser pour effectivement soit la renforcer ou en tout cas la faire évoluer. Et là, donc, on va s'intéresser plus particulièrement aux dernières dispositions donc concernant la lutte sur le harcèlement et sur l'égalité professionnelle. Et on va revenir donc plus à la loi Avenir Professionnel et donc à une de ces dispositions relatives à ce que la loi appelle le référent au Conseil social économique. Hein, donc, il faut savoir que le Conseil social économique est une émanation des lois, des ordonnances Macron, c'est une nouvelle institution représentative du personnel, donc parallèle au qui absorbe les délégués du personnel, ouais. Si j'ai bien compris aussi le CHECT.
Hein. Ah ben ça absorbe de tout en fait. Voilà. Le but c'était de tout fusionner.
Voilà.
Là il est content, il a réussi.
Bon. Alors, à compter du 1er janvier 2019, ce fameux Conseil social économique doit désigner donc parmi ses membres un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes sous la forme d'une résolution adoptée pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Donc, les membres du CSE sont des membres élus. Ce référent donc possède un droit d'alerte et peut aider le salarié à constituer un dossier ou saisir les prud'hommes si l'employeur ne réagit pas. Ce référent donc bénéficie d'une formation. Enfin bon, ça c'est pas tellement ce qui nous intéresse, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on est avec cette histoire de référent, on est confronté à plusieurs limites. Parce que déjà le nombre de CSE existants chargés de nommer les référents en leur sein est encore assez restreint. Seulement 10 500 étaient institués au 1er novembre 2018. Il apparaît que les grands groupes paraissent mieux préparés que les très petites entreprises sans comité social et économique. Ce seront donc aux commissions paritaires régionales interprofessionnelles, donc mises en place en juillet 2017, qui représentent à la fois les salariés et les employeurs.
C'est magnifique.
Des entreprises de moins de 11 salariés. Donc c'est à eux d'apporter des informations, donc à ces fameuses commissions, d'apporter des informations, de débattre et de rendre tout avis utile sur les questions relatives à la lutte contre le harcèlement sexuel et l'égalité professionnelle.
Moi, je sens que ça va pas marcher. Mais on en parlera une autre fois parce qu'on verra comment ça va évoluer dans l'émission au fur et à mesure qu'ils mettront en place ces trucs, tous ces trucs-là. Mais à mon avis, moi, si tu veux, ça va pas marcher. Mais bon, ils espèrent. Laissons-les faire leur truc.
Alors, ce qu'on peut observer, c'est que tant dans la mise en place de ces commissions que celle du référent, ça pose un double problème. Celui, d'une part, de la spécialisation de la formation et de la formation individualisée aux dépens du collectif, d'un côté, et celui de l'affaiblissement des représentants traditionnels des salariés, de l'autre. Lors de la dernière émission, notre invité Michel Minet, professeur de droit du travail au CNAM, soulignait que ce référent constituait une faille dans la protection des droits des salariés puisqu'il tend à devenir le seul interlocuteur spécialiste se substituant aux délégués du personnel et syndicaux. Ainsi, la spécialisation de l'information revient au seul référent. Pierre Kessler, maître de conférence à l'université Panthéon-Sorbonne, soulève aussi une autre limite quant à ce référent, tant en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes que sur d'autres domaines, comme l'accompagnement des handicapés. Au référent CSE, donc désigné dans l'entreprise, hein, employant au moins 250 salariés, chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte, bon, vous l'aurez compris, s'y ajoute, au-delà de 250 salariés, un second référent, mais nommé cette fois par l'employeur, chargé donc d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Donc ça fait déjà deux.
Ça fait deux. Et un troisième a été nommé donc par l'administration pour accompagner les entreprises dans la publication des résultats des index d'écart sur la rémunération homme-femme.
Et de trois.
Ça fait trois.
Ouais.
Voilà. Alors, ce qu'on peut quand même noter, c'est
normalement avec trois personnes.
Ce qu'il faut pour conclure. Le salarié voit ainsi se multiplier des interlocuteurs choisis au second degré ou nommés par l'employeur au sein des grandes entreprises et qui parfois même peuvent être des spécialistes extérieurs contractants de l'entreprise. Les référents apparaissent pour certains thèmes comme de véritables concurrents des représentants traditionnels des salariés syndicaux et CSE dont l'influence s'amoindrit. Par ailleurs, donc, pour revenir à cette instruction de la directe Grand Texte aux directs et agents de contrôle de l'inspection du travail de janvier 19, relative donc aux nouvelles dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, donc prévoit un renforcement des contrôles dans les entreprises par l'inspection du travail et des pénalités en cas de manquement. Pourtant, certains observateurs ne manquent pas de souligner que les inspecteurs du travail manquent de formation sur ces questions, bien que l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été mise en avant comme une priorité pour 2019, selon cette instruction, et rappelle un contexte, ces observateurs donc rappellent un contexte plutôt de réduction des effectifs de contrôle de 10% en 2014 et de 15% prévu en 2008. Et de 15%, et qu'est-ce qui est prévu en 2019?
Ah ben ça, je vais te dire, j'ai été allé voir justement, parce que moi aussi ça me semblait que ces dispositions qu'on avait vues la fois dernière, elles semblaient un peu dorées sur tranche. Bon, c'est vrai que M. Minel nous présentait les choses pour nous montrer un peu ce qu'il y avait comme progrès. Hein. Donc je suis allé voir une collègue pour lui demander, bon, ça va donner quoi concrètement sur le terrain? La question que tu posais, c'est-à-dire, c'est bien, on a multiplié les référents, mais est-ce qu'ils vont pas se tirer dans les pattes? Concrètement, il va se passer quoi quand il faudra faire les stats, etc., etc. Et on a parlé des index. On a parlé de ces index, donc qu'il faut mettre en place pour mesurer et tout. Et bah justement, tu vas voir que c'est vachement intéressant parce que l'index, c'est plein de bonnes intentions, mais on voit que l'enfer en est pavé des bonnes intentions. Il y a des défauts dans la machine.
C'est-à-dire?
Eh ben, on va voir ça en écoutant l'interview que j'ai pu faire aujourd'hui avec la collègue, pour toute précision, nous allons appeler Muriel.
En avant, Muriel.
En avant, Muriel.
On t'écoute.
Muriel, tu es membre de l'intersyndicale des femmes du ministère du Travail. Rapidement, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus juste sur la création de cette intersyndicale, pourquoi et comment elle est composée et qu'est-ce qu'elle fait dans ses grandes lignes, hein?
Alors, c'est une intersyndicale qui regroupe des militantes de la CGT et de Sud, des militantes féministes. Donc, on l'appelle l'intersyndicale féministe. Et on l'a créée il y a quelques années, au départ, pour essayer de faire un travail sur les violences sexistes et sexuelles au sein même du ministère. Et puis on a élargi ça, on essaye de tenir les deux bouts entre ce qui se passe à l'intérieur de notre ministère et ce qui se passe au niveau de notre travail, c'est-à-dire des salariés victimes de discrimination et ou de violences sexuelles sur leur lieu de travail.
Donc c'est effectivement les deux aspects de la médaille, puisque vous êtes à la fois... agent dans un ministère où des problèmes peuvent émerger et agent de contrôle dans des entreprises où ces mêmes problèmes peuvent devoir être réglé aussi.
Voilà. Mmh.
Alors, bah, ça tombe bien parce que nous avons eu la chance, lors de la dernière émission, de recevoir Michel Minet, qui donc nous parlait des textes récemment sortis, réaffirmer le contrôle sur la discrimination et aussi mettre en place des dispositifs pour lutter contre le harcèlement, bien sûr. Bon, l'avis qu'on a eu de M. Minet, c'est que c'était globalement positif. Il y avait quelques petites choses à régler, mais globalement, c'était positif. Alors, sans vouloir critiquer tout ce qui a été dit la dernière fois, est-ce qu'on peut revenir un peu sur quelques-unes des dispositions et est-ce que, à toi, en tout cas, ça te semble aller dans le bon sens ou est-ce qu'il y a des lacunes que tu voudrais pointer ?
Alors, ce qui va dans le bon sens, c'est que ça permet de discuter des inégalités entre les hommes et les femmes et des violences faites aux femmes au travail. Bon, ceci dit, une fois qu'on a dit ça, le problème, c'est que le gouvernement essaye de faire croire qu'il va faire quelque chose de sérieux sur le sujet, alors que quand on se penche sur les textes et leurs détails, ça ne va pas. Alors, ça ne va pas. Ça ne va pas pour plusieurs raisons. Bon, si on prend l'index que les entreprises doivent publier. Mmh. Alors, ce qui ne va pas, c'est que les indicateurs de cet index sont très mal faits, notamment pour ne pas rentrer dans des détails trop techniques, parce que très souvent, en matière d'inégalité de salaire, cet index compte le nombre de personnes augmentées. Mmh. Notamment en ce qui concerne les femmes qui reviennent de congé maternité. Mmh. Et donc, cet index résonne en termes de personnes augmentées et non pas en termes de montant des augmentations.
Alors, si je comprends bien, c'est que du quantitatif en nombre d'augmentés, c'est mais ça. On ne calcule pas de combien les hommes ou les femmes ont été augmentés.
C'est ça, c'est-à-dire qu'en caricaturant beaucoup, si vous augmentez 10 femmes de 2 euros et 5 hommes de 2000 euros, eh bien, vous avez quand même une bonne note
à l'index. Parce qu'il y a plus de femmes augmentées que d'hommes.
C'est ça, c'est ça. C'est
OK.
Ça. Donc ça, c'est le premier problème. Mm-hmm. Ensuite, le deuxième problème, c'est concernant les accords sur l'égalité professionnelle. Alors là, le problème, c'est que ces accords, ils sont négociés au sein de l'entreprise et ils sont négociés notamment par des représentants du personnel dont on ne connaît pas ni l'implication ni les connaissances dans ce domaine. Donc, mm-hmm. on ne sait pas trop dans quelle mesure, bien au fait de ce qu'elle négocie. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que ces accords peuvent avoir un contenu tout de même assez vague, c'est-à-dire... on va promouvoir la formation des femmes. Bon, c'est pas trop...
Sans autre précision.
Oui, c'est-à-dire que, bon, là, les choses sont un peu en train d'évoluer, etc. Mais surtout, le problème, c'est que là, on fait du contrôle de la négociation administrée. C'est-à-dire qu'on on sait pas très bien dans quelle mesure le fait d'écrire à un employeur pour lui dire « telle disposition de l'accord ne va pas » va être efficace pour les femmes de cette entreprise. C'est-à-dire que si on écrit « il faut que vous modifiez cet accord », bon, on ne sait pas dans quelle mesure les représentants du personnel vont bien vérifier derrière que les dispositions de l'accord vont être respectées. Alors ça, c'est d'autant plus dommage qu'on aurait pu faire autrement. On aurait pu faire autrement parce qu'il y a des textes qui existent depuis longtemps et que le ministère aurait pu... Bon, on n'aime pas trop les actions collectives dans les organisations syndicales du ministère, mais ceci dit, là, s'il s'agit de mobiliser le ministère du Travail pour la lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes, on a un article du Code du Travail, qui est l'article L1142-1, qui dit qu'il est interdit de discriminer les femmes, notamment en matière de rémunération.
Il date pas d'hier, celui-là.
Ah non, il est assez ancien.
Oui, on n'a pas la date exacte.
Oui, c'est pour l'autre qu'on a...
Oui, qu'on allait chercher la date exacte. Mais c'est vrai qu'on a déjà un texte. Et alors, la discrimination, c'est un délit.
C'est un délit qui est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende.
Ouais.
Donc... le problème, c'est que c'est vrai qu'on fait peu de contrôle là-dessus, parce que, bon, ça veut dire qu'il faut, notamment dans les grandes entreprises, avoir des statistiques sur les rémunérations, etc. Mais bon, on aurait pu imaginer que le ministère organise une grande campagne de contrôle sur ce thème-là, en fournissant aux agents de contrôle des outils méthodologiques pour procéder à ces contrôles.
Mmh. Bon. Des fiches.
Voilà, des où trouver
des tableaux,
où trouver les données, notamment maintenant avec la banque de données économiques et sociales des entreprises, ça peut être facilité. Bon, voilà. On a un autre texte, par exemple, sur l'obligation d'augmenter les femmes de retour de congé maternité. Donc là, c'est pareil, c'est un texte qui date de 2006, qui prévoit que on doit augmenter les femmes de la moyenne des augmentations générales et individuelles qui ont été réalisées dans l'entreprise pendant son congé maternité.
Alors, je résume juste pour les auditeurs, ça veut dire qu'en fait, elle doit avoir la même augmentation que le reste du personnel, la même augmentation générale, et en plus, elle doit avoir quelque chose qui ressemble à la moyenne de tout ce que les individus ont été augmentés au cours de l'année.
Oui, c'est-à-dire que dans les entreprises, désormais, on a les négociations annuelles obligatoires qui prévoient en général, quand ça va bien, une augmentation de l'ensemble des salariés. Et comme les entreprises individualisent de plus en plus les rémunérations, on a aussi des augmentations individuelles décidées unilatéralement par l'employeur. Bon. Eh bien, le texte prévoit que les femmes de congé maternité doivent bénéficier à la fois de l'augmentation générale et de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise. Alors, soit dans les grandes entreprises, de l'augmentation de la moyenne des augmentations individuelles pour leur catégorie socio-professionnelle. D'accord. Ou dans les petites entreprises de tout le personnel. Voilà. Bon, et ça, pareil, le fait de ne pas le respecter, c'est une infraction pénale. Et là, on voit bien ce qui ne va pas. C'est-à-dire que dans l'index, on va compter le nombre de femmes de retour de congé maternité qui ont été augmentées, alors que ça ne correspond même pas au texte de loi.
C'est-à-dire qu'on est encore dans on compte les têtes.
Voilà, c'est ça.
Et s'il y a 100% de femmes qui ont été augmentées de retour de leur congé maternité, peu importe qu'elles respectent l'article 1225-26.
C'est ça, peu importe de quel montant elles ont été augmentées.
Ok, parfait.
Alors que la loi prévoit le contraire.
C'est ça. On peut respecter l'index et être en dessous de la loi.
Absolument.
Effectivement, il y a des trous dans la raquette. Hein.
Oui. Et il y a beaucoup d'affichage politique.
D'accord.
C'est-à-dire que comme les limites, comme vous avez pu le constater, les limites des mesures gouvernementales sont quand même relativement techniques, et c'est un peu compliqué de démontrer que c'est du vent, en grande partie tout de même. Du coup, c'est vrai qu'ils peuvent tranquillement, enfin, notamment la ministre peut tranquillement faire comme si elle mettait en œuvre une action très importante contre les discriminations au travail, alors que finalement, c'est pas très efficace. Et en plus, finalement, ça donne beaucoup de travail aux entreprises. Enfin, c'est un travail très formel, c'est-à-dire que les entreprises, elles doivent négocier des accords en faisant attention que tel et tel point, etc., etc., calculer comme ci, comme ça. Finalement, elles se perdent dans les questions formelles de est-ce que j'ai assez d'indicateurs, est-ce que j'ai négocié sur assez de thèmes, etc., etc. Et finalement, on oublie l'essentiel, c'est-à-dire les vrais résultats.
Et puis les salaires, et puis les conditions de travail, et puis etc.
Oui,
quoi.
Bien sûr.
Donc en fait, ça occupe les entreprises, les équipes syndicales et les agents de contrôle.
Absolument.
Donc tout le monde est au boulot.
C'est ça.
Mais on brasse du vent.
En très 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 grande partie.
C'est magnifique.
Effectivement. Effectivement, parce que les équipes syndicales, ça veut dire que il faut qu'elles soient suffisamment formées à la fois pour négocier sur les thèmes très formels qu'on leur propose, et à la fois pour dire « Ah mais oui, mais alors là, ça ne va pas, et donc, enfin, ça n'est pas suffisant, et donc, je demande à l'employeur d'agir sur autre chose. » Enfin, à mon avis, quand ils ont passé des heures et des heures à négocier un accord sur l'égalité, enfin, moi, je ne sais pas dans quelle mesure ils vont consacrer encore plus de temps pour s'intéresser à d'autres choses qui sont hors accord.
Et en plus, il y a toujours ce problème que c'est du temps qu'effectivement, le temps n'est pas extensible à l'infini. Et comme tu dis, quand est-ce qu'on finit de négocier ça, la réalité des effets sur le terrain est moins importante que la feuille de papier qu'on a tous signée ensemble,
c'est
en
ça.
fait. C'est ça.
C'est possible. On verra, mais il est possible que ça se passe comme ça, malheureusement.
C'est pas la première fois qu'on nous fait une usine à gaz comme ça, hein, dans les services d'expérience. Hein.
Oui.
Et d'ailleurs, le plus ils font du barouf, et plus généralement, c'est que ça va servir à rien. C'est des petites mesures discrètes, parfois, sont très utiles, mais... Ouais, bon. Eh ben, oui, les sbroufs, il n'y en a pas que ailleurs, il y en a aussi chez nous. Voilà, est-ce que, je pense que les choses sont assez claires. On voit à la fois, quand même, on peut pas nier qu'il y a un potentiel, et au moins, on s'intéresse à la question, ça, c'est positif. On avait déjà conclu que valait mieux, quand même, s'intéresser à la question que rien faire du tout.
Oui.
Mais on est très en dessous, tu dirais qu'on est très en dessous de ce qu'il faudrait, en fait.
Bah après, on verra comment les équipes syndicales se saisissent de la question. Mais c'est vrai que soit, malgré toutes les limites, il y a quand même quelque chose de positif. Parce que ça veut dire qu'on discute de plus en plus de la question de l'égalité salariale, de carrière, etc. Et puis des violences faites aux femmes au travail. Mais quand même, il y a quand même un danger. C'est que tout le monde se dise « Bon, c'est trop compliqué, finalement ça sert à rien en vrai pour les femmes, tout ça c'est du flan. » Voilà. Mm-hmm. C'est-à-dire que les équipes syndicales se disent « Bon, moi j'ai d'autres problèmes plus urgents à régler et en plus, finalement, le temps que je passe à négocier des accords, à regarder l'index, à je sais pas quoi, finalement, est-ce que je suis bien sûre que ça a amélioré la condition des femmes ? Donc, il y a quand même un risque. Voilà, on verra dans les années à venir comment...
Carrément qu'ils ne le fassent pas, soit qu'ils le fassent vraiment à minima pour gagner du temps, et puis on remplit nos obligations, basta.
Ouais.
Ok. Ah oui, ce serait. Donc, à surveiller de près quand même pour savoir l'évolution de la situation, tu dirais. Hein ?
Oui.
D'accord. Eh bien, écoute, Muriel, je te remercie pour ton intervention. Ça complète parfaitement l'émission de la fois dernière où, effectivement, bon, on avait une vision un peu plus idyllique, mais c'est normal. On était en train de se faire présenter les nouvelles dispositions et les espoirs qui étaient dedans. Là, on voit que ça va être plus compliqué que ça. Merci.
Bon, voilà, hein, c'était assez édifiant. Alors, sans transition, nous avons interviewé Muriel. Nous avons donc maintenant, si j'ai bien compris, Myriam, qui est une amie de Muriel. Bonjour Myriam.
Oui.
Donc, tu es aussi une collègue, tu es une collègue de Muriel.
Absolument.
C'est ça. Et donc, on a vu donc avec l'interview de Muriel que les dispositifs qui sont supposés donc réduire les inégalités hommes-femmes, il y avait beaucoup de parlotte, très très peu de choses fonctionnelles. Et je voulais deux précisions de ta part. D'abord, tu fais bien partie de la même intersyndicale féministe.
Absolument. Alors,
vas-y.
Deux précisions, voilà, contrairement à ce que tu as dit tout à l'heure, ce n'est pas l'intersyndicale des femmes, mais l'intersyndicale féministe.
Oui.
Et une petite omission aussi de ma collègue, camarade et amie Muriel, c'est que c'est une intersyndicale qui regroupe des militantes de la CGT, de Sud et de la CNT.
Voilà, c'est ça. Je savais qu'il m'en manquait une. Ok, cela donc étant dit, d'abord, est-ce que tu es d'accord avec ce que nous a signifié Muriel, c'est-à-dire que on va avoir des difficultés à faire appliquer concrètement ces dispositions un peu floues.
Oui, alors sur l'égalité professionnelle, l'exposé était très complet, donc je ne vais pas dire grand-chose. Peut-être juste pour monter un petit peu en généralité, c'est que indépendamment. On va dire de est-ce que les dispositifs juridiques sont bien faits ou pas, est-ce qu'on a les moyens de les appliquer ou pas. De toute façon, si la lutte des classes ne passe pas avant la lutte contre le sexisme pâtit des échecs de la lutte des classes. Et qu'en fait, on a des évolutions actuellement, des modes de management et de gestion du travail et des emplois, que sont le manque de transparence, qui est l'individualisation aussi beaucoup, dont la lutte antisexiste, la lutte contre les discriminations sexistes, pâtit en premier lieu. C'est-à-dire qu'on aura beau faire des lois extraordinaires, d'abord, dès lors qu'il n'y a pas de transparence sur les éléments qui permettent de vérifier les chiffres qui sont donnés par les entreprises, tout ça reste vain. Et surtout, plus on individualise, plus l'employeur pourra arguer d'éléments justificatifs des différences hommes-femmes de manière individuelle. On trouvera toujours, le poste sera toujours un peu différent, la grille, enfin la note d'évaluation sera toujours un peu différente, etc., etc. Donc plus on individualise les repères sur la gestion des carrières et des rémunérations, et moins on arrivera de toute façon à établir que la discrimination est bien liée au sexe. Puisque aujourd'hui, ça se fait surtout les mécanismes réellement de réparation se font sur une base individuelle. On n'a pas d'action collective, on n'a pas de sanctions collectives véritablement, alors que ce sont des discriminations en fait qu'on arrive surtout à démontrer de manière structurelle et collective, alors qu'individuellement, on trouvera toujours de quoi justifier que telle femme soit moins payée que tel homme.
Le diable se loge dans les détails.
Et
oui. Mais d'ailleurs, ce qu'on avait vu effectivement, c'est que l'index, le fameux index là, que toutes les entreprises sont supposées mettre en place, et il y a X référents qui sont supposés passer derrière pour vérifier, il y a les agents de contrôle qui sont passés derrière pour vérifier que ça a été négocié et tout. L'index, il bouche en fait la vue en réalité. Il sert à masquer des informations vraiment intéressantes.
Alors peut-être moi du coup, après avoir attentivement écouté cette brillante émission, puisqu'on a beaucoup parlé d'index égalité, j'aurais voulu revenir un petit peu sur la question des viols, des agressions sexuelles, oui, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes en entreprise,
voilà,
qu'on fait l'objet de la première présentation. Il y a deux choses très importantes qui ont été dites que j'aimerais un peu développer, pas tellement du point de vue légal finalement, mais plutôt du point de vue dont on les mobilise et en tant qu'agent de contrôle, et en tant que militante syndicale et en tant que travailleuse. D'abord, il a été dit que ce ne sont pas seulement les victimes qui sont protégées contre les, on va dire, les discriminations, les mesures de rétorsion qui pourraient être prises contre elles, ce sont aussi les témoins. Et en fait, en réalité, c'est plus large que ça. C'est pas le terme témoin qui est employé par ces dispositions de protection. C'est toute personne qui a relaté des faits de harcèlement sexuel. Et cette formule, elle est importante parce que finalement, on va pouvoir s'en servir aussi pour protéger la victime, mais la victime qui ne parvient pas à prouver ou qui parvient pas entièrement à prouver. Et je trouve ça important dans la période actuelle, on a beaucoup parlé de libération de la parole, et dans cette disposition juridique, qui est pas du tout récente non plus. Je pense que c'est un cadre juridique qui peut venir protéger cette libération de la parole, parce que ça signifie qu'une femme qui s'estimerait victime de viol, d'agression sexuelle, de harcèlement sexuel, d'agissement sexiste, à partir du moment où elle relate ces faits à qui que ce soit, y compris donc au sein de l'entreprise, on va dire à un supérieur hiérarchique, à la direction, etc., eh bien ça va déclencher cette protection et on va en quelque sorte placer sous surveillance tout ce qui va lui arriver derrière. Malheureusement, alors je suis pas sociologue, j'ai pas fait d'études nationales, mais on va dire en tant que militante et en tant qu'inspectrice du travail, je vais pas porter une parole très optimiste, mais pour l'instant, souvent ce qui se passe derrière, c'est quand même pas très facile pour les victimes, mais ça donne les moyens aux victimes, à leurs avocats, à leurs défenseurs syndicaux et aussi aux agents de contrôle de pouvoir, indépendamment de la question de savoir si on arrive à prouver ou pas ce dont elle s'est plainte, de déclencher cette protection et de sanctionner l'employeur si jamais, derrière la plainte, il y a des mesures de rétorsion.
Comme toute personne qui relate, ça englobe aussi éventuellement un lanceur d'alerte pour quelqu'un d'autre.
Voilà, c'est ça. Ça protège les témoins, ça a très bien été dit, mais je voulais insister sur le fait qu'en fait, c'est la personne qui relate, c'est pas seulement le témoin, ouais, c'est aussi la victime qui relate ce qui lui est arrivé à elle.
Ou le lanceur d'alerte qui signale.
Voilà.
D'accord. C'est englobant, quoi.
Voilà. Et on va être sur les dispositifs juridiques de la discrimination, hein, puisque ces mesures de rétorsion, elles sont appréhendées comme une discrimination, donc avec le délit pénal de discrimination, avec l'ensemble des outils juridiques, l'annulation du licenciement, par exemple, qui était évoqué aussi. Donc on est quand même sur une protection qui, si on parvient à la mobiliser, a quand même des effets véritablement contraignants pour l'entreprise. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose sur laquelle je voulais rebondir, c'était sur l'obligation de prévenir le harcèlement sexuel, les agissements sexistes et toutes les violences finalement sexuelles et sexistes au sein de l'entreprise. Ça aussi, ça me paraît être une dimension importante parce que ça a permis, en tout cas dans l'ère du travail, à ces questions-là, de ne plus être cantonné à la question de la procédure pénale. Mmh. C'est quelque chose qu'on entend souvent, hein, d'ailleurs dans les discussions, c'est un peu toujours opposé aux victimes comme une preuve de vérité. Si elles n'ont pas porté plainte, c'est que ce qu'elles disent, c'est pas vrai ou que c'est pas si grave. Ce qui est une aberration, parce que tout le monde sait très bien, c'est compliqué d'aller porter plainte. La plainte n'est pas forcément reçue par les commissariats. Ensuite, on sait qu'elle n'est pas forcément traitée. Puis on peut avoir peur des proportions que ça prend, etc., etc. Donc, cette question de la prévention, elle permet de quitter le terrain du pénal pour aller sur des terrains qui sont plus en termes, je dirais, d'accès, de mécanismes de preuve, etc., peut-être moins contraignant et moins violent pour les victimes. Mmh. Et à nous, agents de contrôle de l'inspection du travail, ça nous offre aussi des outils qu'on maîtrise mieux, pas seulement en termes de formation ou d'habitude, mais dont on a la maîtrise. Parce que le pénal, l'inspecteur ou l'inspectrice du travail, enfin l'agent de contrôle, va dresser un procès verbal, mais c'est pas une sanction et c'est pas un jugement. Mmh.
C'est le début d'un processus qui pourrait mener à, si
voilà,
tout se passe
c'est
bien...
un signalement qui est fait au parquet, qui va rejoindre la pile des 350 PV que le parquet a traité, qui va être peut-être lu au bout de plusieurs mois, qui va repartir en enquête préliminaire, qui va peut-être être classé sans suite, etc., etc. Bref, une fois qu'on a dressé procès-verbal, on va dire dans une vision un peu pas trop engagée, on a fait notre boulot, mais enfin derrière, on ne sait pas ce qui se passe, et puis souvent, il ne se passe pas grand-chose. Alors que le terrain de la prévention, là, on est vraiment dans le cœur de métier de l'inspection du travail, c'est-à-dire qu'on va mobiliser des outils classiques de santé et de sécurité des salariés, puisque c'est ça aussi qui est en jeu dans les violences faites aux femmes au travail. Donc on va pouvoir mener des enquêtes, demander un certain nombre de documents, venir dans l'entreprise auditionner les salariés, y compris donc sous la forme de questionnaires type anonymes dont on va faire des restitutions un peu entre guillemets statistiques, quantitatives et qualitatives. On va avoir l'outil de la mise en demeure, c'est-à-dire donner un délai à l'employeur pour prendre un certain nombre de mesures. Et puis pour les salariés, ça veut dire que ça donne accès au conseil de prud'homme, pas forcément à l'occasion de la rupture de leur contrat. Malheureusement, c'est souvent le cas. On va au prud'homme une fois qu'on a été viré après cette plainte de harcèlement sexuel. Ça va lui donner accès sur l'obligation de sécurité en soi. Mmh.
Donc il y a...
Les mécanismes de preuve sont plus souples parce que la responsabilité de l'employeur est plus forte. Mmh. En termes également de qui on vise, ça peut être aussi... alors. Bon, ça, il y a il y a un revers de la médaille, mais ça peut être plus simple aussi pour les victimes d'avoir une mise en cause collective de l'ensemble de la structure de l'entreprise, d'engager une responsabilité collective sur la personne morale, plutôt que de désigner nommément telle ou telle personne qu'elle estime être son agresseur ou son harceleur.
Donc c'est pas. On pointe là la défaillance de prévention de l'entreprise, en fait.
Voilà.
Elle a foiré dans son travail collectif de prévention de ce type de risque.
Voilà. Et il faut voir qu'au pénal, on va être vraiment sur une mise en cause individuelle, c'est-à-dire qu'il faut prouver que tel individu a commis tels agissements avec la présomption d'innocence qui le protège.
Bien sûr.
Alors qu'au civil, on va mettre en cause la responsabilité collective de l'entreprise avec des mécanismes de preuve qui vont être beaucoup plus larges, plus souples. C'est-à-dire qu'on va pouvoir démontrer des mécanismes, soit qui ont conduit au harcèlement ou qui ont permis que le harcèlement prospère sans protéger la salariée suffisamment tôt, etc., etc.
Défaillance dans le système de protection.
Exactement.
D'accord. D'accord. Là, c'est pour le coup, c'est quelque chose qu'on connaît, qui est aussi, qui est en fait, vous n'êtes pas aux normes pour protéger vos salariés contre un risque.
Et ce qui est intéressant, alors là, qui est un peu plus spécifique à ces questions de violence sexiste et sexuelle au travail, parmi les questions de santé au travail, c'est que cette obligation de prévention, et ça a été très bien dit aussi tout à l'heure, elle se double d'une obligation de protection de la victime qui a relaté. C'est-à-dire que, en principe, dans le cadre juridique, à partir du moment où les faits sont signalés, on ne sait pas encore s'ils sont établis, pas établis, on est en amont de cette question, eh bien, on doit aussi protéger la victime.
D'accord.
C'est-à-dire qu'elle doit bénéficier d'une écoute bienveillante, j'aime plus trop ce mot, c'est un peu galvaudé maintenant, mais voilà, d'une écoute ouverte, on va dire, sans préjugés. Il est possible de prendre des mesures provisoires de type éviter que les deux personnes se retrouvent l'une en face de l'autre. On doit protéger l'anonymat de la plainte et également celle du mis en cause. Voilà, il y a tout un tas de mécanismes qui font, c'est vraiment ce moment de la plainte, il est important. Et si l'entreprise ne prend pas ces mesures de protection, eh ben on va tomber, ce que je disais tout à l'heure, dans éventuellement l'interdiction des discriminations, des mesures de rétorsion contre la personne qui s'est plainte de violences sexuelles ou sexistes au travail.
Bon, bah, à ce stade, Myriam, je dois t'informer que l'émission est officiellement terminée, mais bon, visiblement, on a gagné un petit peu de rab. Ça veut dire une seule chose, ça veut dire qu'il va falloir que tu reviennes dans l'émission, parce que ça fait deux fois qu'on... Non, mais on voit que c'est un sujet important, parce que ça fait deux fois, donc, de suite, qu'on traite des questions des inégalités, des violences, des mesures mises en place, etc. Et on voit qu'on effleure le sujet à chaque fois. C'est-à-dire que ça a plein de répercussions en réalité. Hein. Et c'est un problème qui est super compliqué. Et de le traiter avec des solutions, on va dire, un peu patchwork, un peu patch, un peu lisse, ça va pas faire l'affaire. Hein. Tu seras d'accord avec ça.
Il faudrait faire une émission en invitant des salariés, des militantes qui ont réussi à gagner des choses sur le terrain de l'égalité ou des violences.
Eh ben voilà, ça y est, on a un sujet. Ouais, on a un sujet. Alors, nous reprendrons, donc l'équipe reprendra contact avec toi pour cette émission, j'imagine.
Moi, j'en ai pas forcément, mais ça doit exister quelque part.
Ça doit exister quelque part. Non, je signale quand même, parce que on a deux intervenantes qui donc étaient de l'intersyndicale féministe du ministère, que aussi il y a des initiatives de ce type qui se mettent en place et qui permettent à des agents, par exemple, de la fonction publique ou à des salariés, depuis leur position syndicale, d'attirer l'attention et de forcer à ce que l'administration prenne en compte ces sujets-là. Donc, il y a des solutions, mais comme tu dis, ça n'est pas que la loi, hein, c'est aussi l'organisation, c'est aussi la bagarre. C'est des choses comme ça qui permettent de faire avancer les choses. On est d'accord ?
Absolument.
Ouais, je te remercie beaucoup, Myriam. Et donc, tu seras réinvité, donc sache-le, à une prochaine émission que nous ferons incessamment sous peu. Alors, pour clore l'émission, je propose une petite musique que nous avons déjà passée dans l'émission, mais on s'en lasse jamais et la bataille n'est jamais terminée. Et donc, nous allons avoir droit de nouveau à l'hymne des femmes.